C'est une musique, un chant de Carl Jenkins. Et quand je l'ai entendu, j'ai eu l'impression que les anges dans le ciel chantaient les louanges de Dieu et jubilaient en sa présence. Il y a ce crescendo et ça me faisait penser à une jubilation. C'est pour ça que je vous ai passé cette musique ce matin. Bonjour à tous. Oui, t'as raison, puis moi qui le déteste, je peux l'enlever, c'est beaucoup mieux. Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes présents dans cette salle, et bonjour à vous qui nous suivez depuis chez vous. Nous souhaitons la bienvenue aux paroissiens de la cité qui se réunissent au CEPOM. Marie-Claire Grenu nous accompagne dans ce culte. Et bienvenue à vous qui êtes membres de Mérin et de l'Église évangélique et qui êtes là tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est le premier culte de l'été. Il y aura 6 cultes ici à l'Église évangélique et 2 au CEPOM. C'est à 17h parce qu'à cause du Covid, les deux communautés catholiques et protestantes ne devaient pas se croiser dans le hall, hein, pas trop de brassage de personnes, et aussi parce que les protestants avaient une salle un peu trop petite pour réunir leurs membres. Donc c'est pour cela qu'ils se réunissent l'après-midi et pas à 10 heures le matin. Les cultes de l'été, c'est une façon de se soutenir, les deux communautés, de se soutenir. Les pasteurs partent en vacances, les paroissiens partent en vacances, on réunit nos forces tous ensemble. Pour moi, c'est aussi une occasion, quand on reste ici, de vivre un peu un temps de vacances, parce que c'est un temps différent en Église, et j'apprécie beaucoup. Et puis, c'est aussi intéressant de pouvoir apprendre à se connaître, partager, vivre des cultes un peu différemment, et s'enrichir les uns les autres. Cette année, ce sera Abraham, ce grand voyageur, qui sera notre guide tout au long de l'été, tout au long de ses cultes. Je souhaite aussi la bienvenue à Bertrand Barral, que beaucoup d'entre vous connaissent, mari de Sylvie, papa de Clément, Aurélien et Hélène. Il est pasteur, compliqué, hein, il est pasteur au centre-ville Rive-Droite, c'est-à-dire dans la paroisse de Servette-Vieux-Cieux, Montbrillant, Saint-Gervais et Pâquis. Il remplace Philippe Gaulat, dont la femme a accouché cette nuit d'une petite fille, Caroline Élise. Il a eu une semaine pour se préparer parce que c'était une naissance programmée. Ça a été provoqué. Donc, ce n'est pas hier qu'il a su qu'il devait remplacer aujourd'hui. Je souhaite aussi la bienvenue à Joshua Porter, fils de David et Pearl, qui rentre du Brésil et qui nous racontera quelque chose de son vécu là-bas. C'est le Seigneur qui nous a précédés dans ce lieu de culte. Donc, en premier lieu, c'est lui qui vous accueille ici ce matin. Que chacun d'entre vous se sente accueilli par notre Seigneur, qui nous aime et qui prend soin de nous. Il a promis que là où 2 ou 3 seraient réunis en son nom, il serait au milieu d'eux, il est au milieu de nous. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci de pouvoir nous réunir, protestants, évangéliques, ensemble ce matin et en communion avec toutes les confessions qu'il y a sur la terre, avec tous les chrétiens qui se réunissent en ton nom ce matin. Sois avec nous tous pour que nous entendions ta parole, pour que nous sentions ta présence, pour que nous soyons des frères et des sœurs les uns pour les autres. Nous te remettons spécialement ceux qui sont dans la peine ou malades, qu'ils sachent que tu es avec eux, que tu ne les abandonnes pas. Donne-leur de la force et de l'espoir. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours. Amen. issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église.
Nous a donné la vie, tous aussi perdus, tous aussi pécheurs. Nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert. Nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons nos médisances. Que les bras du diable soient mis en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous sait. Nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi. Nous n'avons qu'une seule foi. Et de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Non qu'un seul but, élever Jésus. Et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert. Nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église.
Nous n'avons qu'un seul Père.
Nous n'avons qu'un seul Père. Nous n'avons qu'un Sauveur. Et pour nous c'est un Père. Comme nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous
C'est un plaisir de pouvoir enfin nous retrouver. Voilà bien longtemps que nous n'avons pu partager ces cultes de l'été et j'ai plaisir à vous voir tous réunis ici. Je vous lirai une prière de louange. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour d'âge en âge. Je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célébreront tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, quelle est ta puissance? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer tout le jour. À ton nom, il donnera de la joie.
Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pourrons porter. Le fardeau de joie, proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pourrons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis.
Abraham, une grande figure de l'Ancien Testament. Une grande figure, mais qui n'a pas tout fait juste, toujours. Heureusement pour nous. Je ne sais pas si la culpabilité, il l'a connue. Mais il me semble que la culpabilité, c'est quelque chose que nous, êtres humains, on connaît très bien. Il y a une culpabilité qu'on ressent quand on a commis une faute. On sait ce qu'on a fait de mal. Ça, c'est assez simple parce qu'il y a une porte de sortie. Reconnaître sa faute et demander pardon à Dieu ou à la personne qu'on a lésée. C'est parfois difficile parce que notre orgueil en prend un coup. Enfin, il y a une solution. Mais il y a aussi une culpabilité qui nous... Peut-être certains y sont plus sensibles que d'autres, qui nous habite un peu tout le temps. On a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez bien, qu'on n'en fait pas assez, que quelque chose ne va pas, c'est notre faute. Et c'est difficile à le vivre malgré la connaissance que nous avons du pardon et de l'amour que Dieu nous manifeste en Jésus-Christ. Alors ce matin, je vous propose de parler de tout ça à Dieu, de ce qu'il y a dans votre cœur, de lourd et de moins lourd, de lui dire. C'est de cette façon que je traduis l'expression évangélique « remettre au pied de la croix », en parler à Dieu, c'est lui permettre de regarder, ne pas avoir peur de son regard, c'est toujours un regard d'amour, jamais un regard jugeant, et lui permettre de prendre soin de ce qui fait mal. Alors je vous invite à un moment de silence. Que me veux-tu, mon Dieu? Je n'ai rien à te donner, rien, pas une bonne action. J'étais trop lasse. Rien, pas une bonne parole. J'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité. Donne. La hâte chaque jour de voir la journée finie sans servir à rien. Le désir de repos loin du devoir et des œuvres. Le détachement du bien à faire. Le dégoût de toi, ô mon Dieu. Donne. La torpeur de l'âme, le remords, ma mollesse, et la mollesse plus forte que le remords. Donne. Le besoin d'être heureuse, la tendresse qui brise la douleur d'être moi sans recours. Donne. Des troubles, des épouvantes, des doutes. Donne, donne, donne. Seigneur, voilà que comme un chiffonnier, tu vas ramassant mes déchets, mes immondices. Qu'en veux-tu faire, Seigneur? Le royaume des cieux. Notre Seigneur nous voit différents de ce que nous sommes. C'est un poème de Marie Noël, qui est née en 1883 et morte en 1967. Donc quelqu'un qui a vécu déjà il y a longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur passe. Il nous appelle à sortir de nos cavernes. Écoute, il est ce bruissement qui te murmure une parole de grâce et de consolation. Le souffle de son pardon est ténu, mais il s'infiltre au cœur de ta détresse. Il vient se poser sur le lieu de ta blessure. Aujourd'hui, le Seigneur passe. Il te dit : sors et reprends ton chemin.
Un sauveur.
Il a
Je passerai maintenant à la lecture de la parole, tout d'abord dans Genèse, le chapitre 11, les versets 27 jusqu'au chapitre 12, verset 5. Voici la postérité de Térah. Térah engendra Abraham, Nadar et ce sont des prénoms qui ne sont pas familiers. Nadar et Aaron. Aaron engendra Lot. Aaron mourut en présence de son père Térah au pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. Abraham et Nahor se marièrent. La femme d'Abraham se nommait Sarai, et la femme de Nahor, Milca, fille d'Aaron, père de Milca et père de Yiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Téran prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aaron, et sa belle-fille Sarai, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Aaron et ils y habitèrent. La durée de la vie de Téran fut de 205 ans et Téran mourut à Aaron. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Sarai et son neveu Lot, avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Je poursuivrai la lecture biblique dans l'Épître aux Hébreux, le verset 11 au chapitre 1 et les versets 2 et 8. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est par leur foi que les hommes et les femmes d'autrefois ont été approuvés par Dieu. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans savoir où il allait. Je cède maintenant la parole à notre pasteur Bertrand.
Ah, ça fait du bien. Bonjour. Il est long, le voyage, pour aller vers soi-même. Que de rencontres, que de partages en cours de route. L'histoire d'Abraham et de Sarai, c'est un vrai road movie. Que vous soyez de grands cinéphiles ou pas du tout, je pense que vous avez peut-être déjà entendu une fois ce mot « road movie ». Désolé pour l'anglicisme, et c'est difficile à traduire. Un film de route, bof. Mais si je vous dis, John Steinbeck a écrit « Les raisins de la colère » et John Ford a réalisé « Les raisins de la colère » ou « La strada » de Federico Fellini, Arthur Penn, Bonnie and Clyde, Dennis Hopper, Easy Rider, dit de Motard, Barry Levinson, Raymond Rainman, Wim Wenders, Paris, Texas. David Lynch, une histoire vraie. Le monsieur âgé qui, sur sa tondeuse à gazon, traverse des miles et des miles et va retrouver son vieux frère avec qui il est fâché, mais ce vieux frère est malade. Et toutes les rencontres qu'il fait en route, ben ça fait que son frère est heureux de l'accueillir parce qu'il a changé. Notre tondeur à gazon, Roddy. Ou bien, côté français, Colline Serrault et Dominique Fougier, Saint-Jacques, la Mecque. Un pèlerinage plutôt improbable, mais où les préjugés en route en prennent pour leur grade. Oui, le road movie, c'est tout un genre cinématographique. Parfois, mais pas toujours, basé sur des récits écrits, bien sûr. Ce qui est fort avec un film quand il est réussi, c'est qu'on se voit soi-même projeté dans le paysage, dans les nœuds familiaux, devant de rencontres, d'événements qui vont nous marquer en même temps que nous regardons le film. Les protagonistes du film ne ressortent pas indemnes de ce qui leur arrive. Eh bien, nous non plus. Ayant quitté leur repère familier, leur cadre de vie habituel, ils sont façonnés dans leur être et leur spiritualité. Leur vie change en cours de route. Qu'est-ce qu'est le film ? Qu'est-ce qu'est la réalité ? Le road movie, c'est l'histoire de vie déplacée, en ouverture, à l'écoute. On pourrait peut-être le traduire ainsi alors, road movie. Je me découvre, aux deux sens du terme. Je m'aperçois que je m'expose et que je suis vulnérable, mais je comprends de mieux en mieux qui je suis, parce que c'est pas seulement un je. Non, il y en a d'autres je. Et ils m'appellent tu. Et nous devenons nous, nous devenons une histoire. Et en particulier dans certains de ces road movies, désolé pour un nouvel anglicisme, il y a souvent une voix off. C'est une voix qui est en dehors des dialogues directs des personnages. Et parfois, on devine vite qui c'est. D'autres fois, ça prend plus de temps. Il arrive même que cela reste un mystère. On se repasse le film, on remâche ces paroles de la voix off pour comprendre par rapport à ce qui a été vécu, quel est le sens. Et de qui elles proviennent, ces paroles ? Bref, après ce long préambule, un petit peu comme l'âge des patriarches bibliques, vous comprenez peut-être où je veux en venir. Abraham et Sarai, et les étoiles du ciel. Abraham et le pays sans nom, mais plein de visages. Les rencontres d'Abraham et Sarai. Ouais, ça c'est des titres possibles, il y en a plein, parce que c'est l'histoire d'une vie, de plusieurs vies, c'est l'histoire de notre vie. Alors si j'ai lu les versets de Genèse 11, ou c'est plutôt Marie-Claire qui les a lus, moi je les ai écoutés ce matin, avant l'appel d'Abraham, c'est parce que l'histoire commence bien souvent comme nos histoires. Nous sommes précédés de tout un ancrage familial, un enracinement qui nous berce et qui va nous porter et nous faire monter, mais parfois nous enserre au point que notre personnalité a de la peine à émerger. Les versets de Genèse 11, c'est l'histoire de Terah, le patriarche chaldéen, de ses trois enfants et toute la tribu qui lui vient. Et on sent que tout le monde est sous sa coupe et celle de traditions et croyances qu'il a acquises et imprimées aux siens. Pour une raison que nous ne connaissons pas bien, peut-être la mort d'Aran, un des fils, peut-être la stérilité de Sarai. Une partie de la tribu de Terah, de son vivant encore, va quitter la ville d'Our, qui se trouve au sud d'Aram, entre le Tigre et l'Euphrate, avec son culte du dieu Lune. Elle va remonter vers le nord, parce qu'effectivement, l'un des trois enfants de Terah, c'est Aran, est mort. Terah emmène donc avec lui Abraham, avec sa femme Sarai, son petit-fils Lot, c'est justement un fils du défunt Aran, laissant derrière Nahor, le troisième fils, et puis des petits-enfants qui réapparaîtront plus tard dans la saga d'Abraham pour s'établir au nord du pays d'Aram, à Haran, même nom que le fils défunt, dans la boucle de l'Euphrate. Une boucle, c'est parfois un peu enfermant, comme une histoire qui s'enroule sur elle-même et dont on n'arrive plus à sortir. Un cul-de-sac, selon les mots de Philippe Gola, qui aurait dû être là ce matin. Genre, Terah meurt, sa tribu entretient l'héritage, le culte de l'ancêtre et des dieux qui l'ont protégé. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous arrivons au chapitre 12, avec d'abord un changement de casting, donc d'acteur et d'accent impressionnant. Abraham, qui jusque-là c'était un peu le gamin mal émancipé, devient à 75 ans, ça va, j'ai de l'avenir, le personnage principal. Ben oui, Abraham, ça pourrait être vous et moi. Les sages juifs nous disent que 75, en numérologie, c'est 7 plus 5. Ça fait combien, 7 plus 5? Très bien, bravo. C'est l'âge de la bar mitzvah. On acquiert la maturité spirituelle. On devient quelqu'un. On est davantage que le fils ou la fille de... Ben, Clément, c'est pas seulement le fils de Bertrand et Sylvie. Et surtout, c'est là que survient la voix off. Manifestement, c'est pas celle d'un des dieux tribaux dont Abraham avait les oreilles probablement rabattues. Comment l'a-t-il entendu, cette voix, son timbre? On ne sait pas. Mais par le truchement du texte biblique, nous l'entendons aussi. Comme si nous étions un peu de la lignée d'Abraham. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, voire l'apôtre Paul aussi, nous le confirme. Nous le sommes, parce que par la confiance, nous nous sommes accrochés à cette histoire. Nous en sommes descendants. Savez-vous d'ailleurs ce que signifie le prénom Abraham, version courte? Certainement, vous l'avez déjà entendu. Ça veut dire « père élevé ». Mon père est élevé. En d'autres termes, Abraham, au début, il est tellement encore dans l'ombre de son père et des coutumes qui l'ont façonné que quand on l'appelle, eh ben on appelle juste Terah et quelque chose de son ombre portée. Et par effet domino de ce patriarcat enveloppant, objectivant, l'épouse d'Abraham, Sarai, c'est juste ma princesse. Précieuse, très jolie, paraît-il, mais un peu propriété en usufruit d'Abraham sous la férule tutélaire de Terah. Sarai, elle a tellement peu d'existence propre, et Abraham aussi, qu'il n'arrive pas à enfanter, créer de la vie. Une vie qui prendrait forme, visage et personnalité et se distinguerait de ce qui la précède, comme par exemple une petite Caroline, petite sœur de Catherine, chez Philippe Gola et son épouse. La lignée de Terah, passant par Abraham, est un peu dans un cul-de-sac aussi. Elle est toujours pas enceinte, Sarai. Et c'est triste, parce qu'on comprend vite au fil du road movie qu'Abraham et Sarai s'aiment tendrement. Alors on veut croire que l'amour n'est jamais inutile et enfante de la beauté, même si c'est pas premièrement la procréation qui est là. Mais vous savez, dans cette histoire, on comprend vite, ou peut-être lentement, que c'est aussi ce que croit la voix. Pars d'ici, Abraham, toi aussi, Sarai, vous devez découvrir d'autres cieux, faire plein de rencontres pour vous rencontrer vous-même aussi, savoir ce que vous êtes, et vous trouver l'un l'une l'autre. La voix est off. Elle peut pas être décrite, nommée. Elle échappe à toute mainmise. Elle est libre, quoique très proche, extrêmement digne d'être écoutée. Tellement différente des dieux capricieux à qui on offre des sacrifices pour les apprivoiser, acquérir de la force. Et on traîne des lourds fardeaux de culpabilité dont tu nous as parlé tout à l'heure, Denise. Dans le récit biblique écrit, la voix se grave en 4 lettres, consonnes avec des espaces entre, qu'on ne sait pas comment prononcer. Et les savants juifs ont compris qu'on ne doit pas le prononcer. Ils disent « le Seigneur, Adonai », ou même le nom, Hachem. Le nom a appelé Abraham et Sarai. Partez, allez trouver votre propre nom et le conquérir, comme on s'ouvre à la vie. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'unique, je vous dis tu. Allez-y, mettez-vous en route. Mais alors que de temps et d'aventure faudra-t-il pour se laisser trouver, rencontrer et acquérir leur vrai nom, celui que nous connaissons probablement mieux, Abraham, ça s'allonge, de tout un peuple, père d'un peuple nombreux, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. L'Éternel, une autre manière de le nommer sans en faire le tour, bénit Abraham. Eh bien, comme l'Éternel bénit Abraham, ce peuple sera béni, nombreux. Et Sarai, qui pourra enfin enfanter selon la promesse de Dieu, deviendra Sarah, princesse libre et donneuse de vie. Elle enfantera d'un grand éclat de rire, Yitzhak, celui qui rit. Il rit de joie parce que Dieu a promis. Et dans cette promesse, on est béni et on se bénit les uns les autres. Bien sûr, je la fais courte. Bien sûr, il y a eu beaucoup de souffrance là au milieu. Mais la promesse se fait en chemin. Mais pour cela, il y a du temps. Abraham et son clan et leurs troupeaux vont marcher ensemble, se frotter les uns aux autres avec pas mal d'étincelles, sans compter les rencontres avec les peuples autochtones du pays de Canaan, parfois respectueuses, parfois plus rugueuses. D'autres rencontres, même avec le pharaon d'Égypte, enfin c'est toute une histoire. Querelle aussi entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Lot, du coup, sur proposition généreuse d'Abraham, se choisit un bon territoire fertile pour s'établir. Mais ce territoire est gangréné par un mode de vie destructeur dans le chef-lieu Sodome. Alors Abraham, lui, continue sa route. Il continue de laisser cette voie que nous appelons aujourd'hui Dieu élargir ses horizons. Et il réalise, et je crois qu'il n'est pas le seul, qu'il ne peut pas maîtriser son chemin, ses rencontres, et même sa foi. Ça ne s'arrête pas. Il peut juste faire confiance, accepter de partir et être modelé comme l'argile par le potier, oserais-je dire réformé, à l'image de celui qu'il appelle et de qui il devient. Lui, Abraham, tellement enrichi par de nombreux partages. C'est un autre Philippe, Philippe Leu, qui a écrit l'éditorial dans le bulletin des paroisses protestantes Rhône-Mandement et qui dit que les mots « partir » et « partage » sont d'une même origine. C'est quand il n'y a pas autosuffisance qu'il y a besoin. Et quand il y a besoin, il y a rencontre et partage, don, enrichissement humain. Abraham et Sarah quittent leur monde familier et alors ils deviennent plus vulnérables, c'est vrai. Ils deviennent les étrangers d'autres personnes. Mais du coup, ils sont plus confiants dans la grandeur, l'ouverture, la beauté de celui qui les appelle. Et le road movie, chers amis, c'est nous qui le continuons. Et savez-vous comment le texte hébreu nous traduit intégralement ce que dit la voix off au verset 1 ? Lach lecha. Va vers toi-même dans le pays que je te montrerai. Vers toi-même. Plusieurs de nos traductions passent dessus comme chasseur braise. Mais c'est à l'opposé d'un bégayement linguistique ou d'une répétition inutile. Est-ce que nous ne devons pas, nous aussi, nous mettre en route, un jour ou l'autre, oser sortir de ce qui nous a peut-être sécurisés, mais aussi nous étouffe et nous bouche d'horizon d'un appel sur nos vies? Nous sommes, chacune et chacun, appelés. Afin de devenir pleinement ce que Dieu nous appelle à devenir à son image. Le mot Dieu, c'est donc d'abord une voix, un souffle qui vient se glisser dans notre souffle et nous fait respirer plus au large. La voix off est devenue in, intérieure, exigeante parce que très aimante. Elle se fait programme de vie, ordre de marche. Jésus dira, le vent souffle où il veut, et tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Là où nous sommes appelés et nous allons, Dieu sera, se révélera et nous révélera à nous-mêmes, et le chemin aussi. Oui, c'est tout le chemin de la conversion et de la sanctification. Nous ne sommes pas d'abord les enfants d'une tradition, d'un héritage familial fermé, d'une religion, nous sommes enfants du Dieu qui appelle et marche avec nous. Et ça s'ouvre. Nous sommes à son image unique, comme l'est chacune des étoiles dans le ciel. Mais pour cela, il faut dire oui, avec la confiance magnifique de cet anonyme chaldéen, devenu notre ancêtre dans la foi, Abraham, parti sans savoir où il allait, quittant tout et se trouvant lui-même avec la vie. Il a découvert avec joie, malgré bien des tribulations, que cela valait entièrement la peine d'écouter cette voix de plus en plus familière qui est devenue la voix d'un ami. Un ami qui est même venu mêler ses pas aux nôtres et se fait pour nous chemin de vie. Et ça, c'est pas que du cinéma, c'est de la vie. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et nous sommes, et nous le suivons. Amen.
Merci Bertrand. On a plein de trésors à prendre avec nous. Nous sommes les enfants de celui qui appelle et qui marche avec nous. Je vous invite à un moment de prière. Je vous donne la parole. Si vous voulez prendre la parole, vous levez la main et je passe vers vous avec le micro pour que ceux qui sont chez eux nous entendent aussi, que ce ne soit pas simplement pour eux un moment de vide. Seigneur, nous ne te voyons pas, mais tu nous écoutes, tu nous entends, et parfois dans notre cœur nous t'entendons. C'est un mystère, mais c'est un grand cadeau que tu nous fais. Merci. Amen.
Et c'est toi qui nous convie à un pays promis, qui est en fait notre vie déjà ici-bas. Ce n'est pas d'abord vers la vie éternelle, mais c'est ici-bas que tu nous promets une vie où tu marches avec nous et tu nous fortifies. C'est toi qui nous remplis de ta présence par la grâce que tu nous as faite en Jésus. Amen.
Amen. Pour conclure notre prière, je vous invite à chanter le Notre Père, la prière de tous les chrétiens.
Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Voilà, j'invite Josh à nous rejoindre. Alors, Josh ou Joshua est le fils de David et Pearl Porter, famille qui est de l'Église évangélique depuis quelques années. J'espère qu'il n'est pas seulement le fils de David, n'est-ce pas ? Voilà. Et puis, il y a une voix qui l'a appelé à servir au Brésil, où il est en service depuis 4 ans. Il est de retour pour un certain vaccin. Et voilà, je lui laisse la parole pour nous dire un peu, nous parler un peu du Brésil et de ce qu'il y fait.
Merci. Bonjour à tous. Comme Sylvain dit, je m'appelle Josh Porter, je suis le fils de David et Perle. Et c'est un grand plaisir d'être de retour sur Genève pendant quelques semaines et d'être avec vous aujourd'hui. Je suis missionnaire au Brésil depuis 2017 avec une organisation internationale qui s'appelle Pace Movement. Et notre objectif principal, c'est d'aider l'Église locale à développer une vision missionnaire en rapport à la communauté locale et de faire cela utilisant des outils qui ont été développés à partir d'une étude du ministère de Jésus-Christ. Et nous travaillons principalement avec l'objectif d'atteindre les jeunes et les ados dans les écoles. Alors nous envoyons des équipes de missionnaires aux écoles locales pour donner des cours interactifs, pour donner des ateliers sur des principes bibliques, pour enseigner l'Évangile, même que ce soit un pays laïque, on enseigne l'Évangile un peu par le côté, enseignant des principes bibliques sans nécessairement prêcher, avec l'intention de développer des liens d'amitié avec les adolescents et de les montrer l'Évangile pour de vrai. Alors j'aimerais aujourd'hui partager avec vous trois moments clés de ces derniers 6 mois et dire quelques mots aussi sur nos défis pour le reste de l'année. Comme vous l'avez vu sans doute dans le journal, le Brésil a beaucoup souffert avec la pandémie. Et au début de cette année, nous avons passé plusieurs mois en isolement, plus de 2 mois en isolement. Et la jeunesse du Brésil a aussi beaucoup souffert. Plus de 48% d'adolescents brésiliens, selon une étude, ont dit que depuis le début de la pandémie, ils sentent une angoisse constante ou presque constante. Et pourtant, nous avons continué notre travail en ligne, utilisant l'Internet. Et en partenariat avec les écoles, nous avons pu donner plusieurs cours par Zoom, avec plus de 130 élèves participant de chaque cours. Nous avons aussi pu réaliser une conférence en ligne pour former des leaders des jeunes et des pasteurs dans nos outils de mission qu'ils ont pu commencer à appliquer dans leur propre église, dans leur propre ville. Et nous avons aussi promu une campagne de prière pour les écoles. Et plus de 90 personnes ont participé en ligne, à distance, priant pour plus de 50 écoles au Brésil pendant 4 jours consécutifs. Alors, même avec tous les enjeux de la pandémie, avec toutes les conséquences de la pandémie, nous voyons encore l'Église s'engager avec la mission dans la communauté locale, avec un focus sur les jeunes, sur les écoles. Mais nous avons encore quelques défis pour ces prochains mois, pour cette deuxième partie de l'année, qui sont principalement le recrutement de nouvelles églises partenaires qui recevront des équipes de missionnaires pour travailler dans les écoles de leur ville. Aussi le recrutement des hommes, des missionnaires hommes. Nous avons en ce moment beaucoup de missionnaires femmes, mais nous savons que l'influence positive masculine est très importante, spécialement pour les garçons dans les écoles. Alors nous espérons pouvoir recruter plus d'hommes brésiliens et étrangers qui pourront servir au Brésil. Et nous attendons avec impatience l'ouverture des frontières aussi. Nous avons une liste d'attente de Brésiliens qui sont prêts à faire de la mission dans d'autres pays du monde, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, mais ils attendent l'ouverture des frontières pour pouvoir aller et servir. Nous avons aussi des étrangers qui attendent pour pouvoir aller au Brésil pour servir au Brésil. Alors nous attendons l'ouverture des frontières. Et alors, je vous remercie spécialement aux membres de l'EEM pour vos prières, pour votre soutien. Et je vous demande de continuer à vous joindre à moi en prière pour ces défis et pour la jeunesse du Brésil. Merci beaucoup.
Alors, je propose de prier maintenant, Seigneur. Je te prie que tu bénisses Josh et tout ce ministère, que tu permettes que beaucoup dans les églises s'engagent pour être porteurs de l'espérance de l'Évangile, spécialement dans cette situation où beaucoup sont, vivent dans l'angoisse. Nous te prions pour ceux qui voudraient aller servir là-bas, pour les Brésiliens qui aimeraient aller te servir ailleurs, pour que toi, tu ouvres les portes. Oui, continue à bénir Josh et son ministère et bénis aussi son prochain retour dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Les annonces, y a-t-il autre chose? Quelqu'un est prévu? Bon, c'est bien.
Oui, je suis prévu. Je suis le mec qui fait les annonces. Alors, les annonces pour cette semaine. Mercredi, il y a les grillades. On a l'occasion de refaire les grillades ici dans le parc entre la chapelle et l'église. Alors, ça dépend bien sûr de la météo. S'il pleut un peu trop, je pense qu'il n'y aura pas. Mais en tout cas, c'est prévu et on peut se réunir et on se réjouit. Dimanche prochain, c'est le culte au CEPOM à 17h. C'est 18h, sauf erreur. 19. Voilà, 19h, merci. Dimanche prochain, le culte au CEPOM à 17h. Donc, ça veut dire que le matin, il n'y a rien ici. Et c'est à 17h sur place. Oui.
Je rappelle juste que vendredi, si vous voulez venir manger la raclette, rejoignez-nous derrière le centre commercial de Mérin pour Mérin les Bains. Je vous remercie.
Donc, c'est vendredi 9. Voilà. Et puis, encore une annonce pour les potes. Vous savez que ça fait une année, on a mis en place un petit journal qui s'appelle Le Potager pour la jeunesse. Donc on est content parce qu'il y a eu 4 numéros. Et puis là, on fait une petite pause estivale. Mais les enfants sont quand même pris en charge. Alors il n'y a pas forcément de programme, hein, c'est des jeux, mais c'est en tout cas pour que les familles puissent venir. Et les enfants sont pris en charge. Mais par contre, on a quand même une petite surprise. On a fait un petit potager série spéciale été. C'est principalement des jeux. Donc aussi pour les adultes, si vous êtes intéressés, pour les vacances, comme ça vous pouvez le prendre avec vous en vacances. Il y a une petite histoire d'une jeune fille que vous reconnaîtrez à l'intérieur, qui est partie avec sa famille en Afrique, et on aura le grand plaisir de la recevoir le 29 août, pour les enfants principalement. Le papa et la maman seront là, mais ils seront pour les grands. Mais pour les petits, ils viendront raconter un petit peu ce qu'ils vivent là-bas, et donc on donne rendez-vous aux potes le 29 août, pour les écouter et poser plein de questions. Et puis pour la collecte, en dernier point, comme toujours, vous avez à la sortie un petit panier ou via le CCP ou sur Twint. Merci.
Je voulais juste dire que dimanche prochain au CEPOM, c'est à 17h du côté catholique, donc, et c'est Philippe Anchaud qui sera le prédicateur, accompagné par Marie-Claire, qui est avec nous aujourd'hui, et June Strubin, et André et Daniel Fagioni. Donc, bienvenue à chacun. La bénédiction, oui, vous pouvez vous lever.
Que Dieu, roi de l'univers, vous bénisse et vous rende juste, qu'il écoute vos prières, qu'il vous console quand vous êtes triste, qu'il vous protège en étendant sur vous un rempart de paix. Oui, qu'il vous apprenne l'amour, la fraternité et la paix, qu'il éloigne de vous la jalousie, l'esprit de vengeance, qu'il casse ce qui vous retient prisonnier et qu'il fasse pour vous comme dans les promesses de la Bible. Soyez heureux, seuls et ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen.